Bon réveil si vous nous rejoignez, voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Un Américain à Hiroshima, le président Obama est le premier aujourd'hui à venir rendre hommage aux victimes de la bombe atomique de 1945. Pas d'excuses, mais une visite pour l'histoire.
Donald Trump obtient assez de délégués pour être officiellement investi. Il sera donc le candidat républicain à la présidentielle américaine.
En France, la colère contre la loi travail ne s'essouffle pas. Des manifestations toujours suivies et des actions dans les raffineries et les centrales nucléaires qui vont permettre à la CGT de faire durer le mouvement.
Un premier pas législatif pour encadrer les salaires des grands patrons. Les députés ont adopté hier le Say on Pay. La pratique existe déjà chez les Britanniques et les Néerlandais.
Et puis les forces réactionnaires se réveillent un an avant la présidentielle en France. Leur cible, c'est la théorie du genre. Des proches de la Manif pour tous tentent de faire passer leur message dans les écoles et chez des médecins. Une image pour l'histoire, celle d'un président américain, Barack Obama, à Hiroshima, 71 ans après le largage de la bombe atomique sur la ville japonaise. Le chef de l'État va rendre hommage aux plus de 200 000 victimes de ce 6 août 1945, un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Le Japon capitulera quelques jours plus tard. Obama est le premier président des États-Unis en exercice à visiter le mémorial d'Hiroshima. Il n'a pas prévu de présenter d'excuses, mais sa simple venue est déjà un acte fort, nous dit l'historien Kazumi Mizumoto de l'université d'Hiroshima.
C'est une visite historique. Jusque-là, un président américain en exercice n'était jamais venu à Hiroshima pour constater ce qui est arrivé ici il y a 70 ans. C'est d'autant plus historique qu'à Prague, en 2009, M. Obama a tenu un discours célèbre en faveur d'un monde sans armes nucléaires. Ce président qui a tenu ce discours va venir, c'est très important.
Est-ce que 71 ans, au regard de l'histoire, c'est long ou pas ?
Effectivement, il vient avec un retard important, mais cela dit, aux États-Unis, il y a une justification du largage de la bombe atomique. Dans ce contexte, venir visiter Hiroshima malgré cette opinion américaine, c'est très courageux. Je pense que M. Obama est conscient de la responsabilité des États-Unis. Il l'avait évoqué à Prague. Les États-Unis, c'est le pays qui a largué pour la première fois la bombe atomique.
Kazumi Mizumoto est professeur d'histoire à l'université d'Hiroshima. Il répondait à notre envoyé spécial Dominique André. Une visite qui intervient à l'issue du sommet du G7, les grandes puissances de la planète, dont les Américains, les Japonais, donc, mais aussi la France, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne et le Canada ont beaucoup parlé d'économie, de solutions globales pour relancer une croissance mondiale morose à travers des politiques budgétaires et monétaires coordonnées. Le communiqué final du G7 évoque également le Brexit, l'éventuelle sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, un sérieux risque pour la croissance mondiale, peut-on lire. Et enfin, les grandes puissances ont martelé la nécessité d'une réponse mondiale face à la crise des migrants, crise aiguë en Europe. Et comme s'il en fallait une nouvelle illustration, on a appris hier que deux nouveaux navires avaient fait naufrage au large de la Libye. Il y aurait plus d'une centaine de morts. Les rescapés ont été emmenés en Italie, où certains ont pu raconter que l'un des bateaux transportait environ 650 personnes, dont une majorité de Marocains, une nationalité jusqu'alors peu représentée dans les candidats à l'exil sur cette route méditerranéenne. À la une aussi à l'étranger ce matin, Donald Trump vient de décrocher l'investiture du parti républicain. Il atteint la majorité de délégués requise pour avoir le droit de représenter le GOP à la présidentielle américaine de novembre prochain. Le milliardaire se retrouve ainsi investi avant son adversaire démocrate, a priori Hillary Clinton. Un scénario qu'on envisageait difficilement au début de la campagne. Frédéric Carbone nous appelle de Washington.
Le compte n'est pas officiel, mais avec le ralliement d'une trentaine d'hésitants, Donald Trump atteint formellement le fameux seuil des 1237 délégués. Il sera donc désigné, dès le premier tour à la convention de Cleveland, comme un candidat normal, là où on lui promettait il y a quelques semaines encore une bataille rangée. Donald Trump se félicite aussi du record de participation dans ses primaires républicaines, mieux que Ronald Reagan ou George Bush, et il attend maintenant son adversaire démocrate. Je me réjouis de voir Hillary et Bernie se disputer. Je ne me prive d'ailleurs pas de reprendre des arguments chez Bernie Sanders. De fait, Donald Trump bénéficie à plein de la course qui s'éternise dans le camp démocrate et il envisage même de s'immiscer dans cette rivalité. J'adorerais débattre avec Bernie. L'audience serait formidable. L'idée est d'abord lancée comme une plaisanterie, mais Bernie Sanders se dit très excité. Si ce débat avait lieu, Hillary Clinton se retrouverait spectatrice d'un pugilat entre son rival d'aujourd'hui et son adversaire de demain, comme le symbole d'une campagne en panne.
Frédéric Carbone à Washington pour France Culture. L'offensive anti-Daesh progresse, nous dit-on, en Irak et en Syrie, offensive soutenue par les États-Unis. En Syrie, l'envoyé spécial de l'ONU s'inquiète des nombreux civils pris au piège des combats. L'aide humanitaire peine à parvenir aux populations proches de la famine. En Irak, les combats contre les djihadistes se concentrent autour de Fallujah. Là aussi, les conditions de vie des habitants sont dramatiques. Manque de nourriture, de médicaments et d'eau potable.
8h06 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perrier. Avec l'actualité en France, encore et toujours la colère contre la loi travail.
Et oui, les manifestations hier pour la 8e journée de mobilisation ont rassemblé à peu près le même nombre de personnes que la semaine dernière. 153 000 selon les autorités, le double selon la CGT. Pas d'essoufflement donc. Et la CGT, en première ligne pour faire retirer le texte de Myriam El Khomri, compte surtout désormais sur les blocages des raffineries et des centrales nucléaires pour maintenir la pression et faire durer le mouvement. Les précisions d'Anne-Laure Chouin.
Cela fait plus de 2 mois qu'on manifeste, beaucoup pensaient qu'on ne tiendrait pas sur la durée, mais nous sommes toujours là, nous réclamons toujours le retrait de la loi et c'est le gouvernement qui patine. C'est en substance le résumé de la situation par Philippe Martinez après la mobilisation, un discours offensif qui laisse penser que le syndicat a encore des munitions pour faire durer le mouvement, une partie de ses forces dans la rue les jours de manifestation, l'autre dans les entreprises stratégiques, raffineries et centrales nucléaires notamment, avec, pour le moment, une opinion publique qui, si elle râle, contre les pénuries est loin d'avoir pris le parti du gouvernement contre les syndicats et qui est toujours aussi majoritairement contre la loi travail. Sans compter que la participation au cortège fluctue, certes, mais ne faiblit pas, que la mobilisation syndicale dans les grosses entreprises de l'énergie semble faire tache d'huile, que les syndicats des transports, RATP, SNCF et aériens ont prévu de rentrer dans la danse de façon plus continue, voire illimitée à partir de la fin du mois. Bref, la CGT semble avoir de quoi tenir jusqu'à l'Euro de football et au-delà. Elle peut même en profiter pour gagner une nouvelle crédibilité en interne, cette ligne dure étant réclamée par de nombreuses fédérations locales. Avec des risques évidents cependant. En témoigne l'épisode pas du tout apprécié par les médias du chantage à l'apparition d'une tribune du syndicat et l'énorme impopularité que pourraient provoquer des coupures d'électricité le cas échéant.
À la page sociale, on suivra aujourd'hui le procès de l'épisode de la chemise arrachée du DRH d'Air France. 16 salariés de la compagnie, adhérents à la CGT, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bobigny. Certains risquent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement pour violence en réunion. Un premier pas des députés à propos de la limitation des salaires des grands patrons. L'Assemblée nationale a adopté hier en première lecture un texte présenté par le Front de Gauche. Il donne plus de pouvoir aux actionnaires, moins aux administrateurs. La pratique est existe déjà au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. On appelle cela le « say on pay ». Explication avec Jean-Marc Chardon.
Le législateur essaie de prendre une vitesse, le MEDEF, qui, en annonçant la semaine dernière le principe d'un vote impératif, devait obliger le conseil d'administration à tenir compte du vote des actionnaires et à apporter des modifications. En passant au vote contraignant, c'est l'Assemblée générale qui aurait la décision, c'est-à-dire l'actionnaire. Est-ce que ça dissuaderait de donner carte blanche à des rémunérations jugées exorbitantes, sans doute en cas de mauvais résultat, qui peut entraîner un vote négatif, mais pas systématiquement, d'après l'analyse de Michel Albouy, professeur de finance à Grenoble, école de management.
On remet le pouvoir dans les mains des actionnaires. Les actionnaires, quand même, voient leurs propres intérêts. Le conseil d'administration, lui, est quand même en charge de l'intérêt social de l'entreprise. Donc, ce say on pay contraignant, c'est bien dans la mesure où, si on a une entreprise comme Renault, où il y a l'État qui dit avec d'autres actionnaires, ben, on va refuser des rémunérations trop élevées. Mais d'une certaine façon, pour le cas général, ça va faire quoi cela? Ça va faire, et là on a des observations sur des pays qui ont rendu le say on pay contraignant. Ce que ça va faire, c'est que en augmentant le pouvoir des actionnaires, eh bien la pression pour que les dirigeants obtiennent de fortes rémunérations, ça sera d'aller vers une gouvernance encore plus actionnariale. Sauf dans les entreprises où l'État, évidemment, est actionnaire, mais c'est quand même pas la majorité des entreprises.
Encadrer les rémunérations en octroyant plus de pouvoir aux représentants du capital plutôt qu'à ceux de l'entreprise, est-ce la meilleure solution? C'est en tout cas l'une des pièces du débat pour ou contre le vote contraignant.
Jean-Marc Chardon, c'est le comble de nos sociétés de surconsommation, le gaspillage alimentaire. L'ADEME vient de publier son bilan. 10 millions de tonnes de produits alimentaires sont perdus ou gaspillés tous les ans en France. Selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, cela représente 16 milliards d'euros mis à la poubelle et un impact carbone de plus de 15 millions de tonnes équivalent CO2 ou encore 3% des émissions de gaz à effet de serre du pays. Le Parlement a voté en février dernier des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment dans les grandes surfaces. La politique, c'est ce matin le grand rassemblement des forces réactionnaires à Béziers à partir d'aujourd'hui. Et tout le week-end, le maire de la ville, Robert Ménard, soutenu par le Front National, organise des tables rondes pour établir, je cite, 50 mesures patriotes pour ne pas se tromper de droite. Rassemblement donc de l'extrême droite, des militants royalistes, de la manif pour tous, des identitaires ou encore des nostalgiques de l'Algérie française. Des forces qui comptent bien peser sur la présidentielle, à l'image du collectif Vigie Gender. Depuis janvier, ses proches de la Manif pour tous ont envoyé massivement des livrets à des écoles, des élus, des médecins pour sonner l'alarme contre ce qu'ils appellent la théorie du genre, l'homme et la femme considérés comme des constructions sociales et non comme des évidences physiques. Le point avec Alexandra Vira.
Un livret de 52 pages où sont recensés pêle-mêle des exemples qu'ils associent à l'avènement du genre dans la société. Ils critiquent par exemple la diffusion du film La vie d'Adèle dans certaines classes ou encore les chapitres des manuels scolaires de Sciences et Vie de la Terre où l'on parle d'homosexualité et de personnes transgenres. Esther Pivet, porte-parole.
L'objectif est simple, c'est simplement d'informer les parents, les enseignants et puis de manière plus générale les citoyens sur le concept de genre qui est un concept idéologique, de manière à ce que les enseignants, les parents sachent comment le genre peut se diffuser à l'école et qu'ils puissent s'y opposer s'ils le souhaitent.
Mais à un an des élections présidentielles, le réveil de ces courants conservateurs pose question. Serait-ce une tentative de taper sur la gauche et de se faire une place dans le milieu enseignant ? Pas d'intention d'entrisme pour le collectif, mais la fédération INSA de l'éducation n'est pas convaincue. Elle a cherché à savoir combien de départements avaient été ciblés. Si le collectif en compte 20, le syndicat n'en a lui compté que 3. Karine Autussier, secrétaire nationale.
On a interpellé nos sections départementales pour voir s'il s'agissait juste de 2 cas très isolés et on a eu un retour de notre section de Paris qui nous a dit qu'en janvier, toutes les écoles parisiennes avaient été destinataires de ce livret. Ils extraient des citations de rapports aussi diverses que des rapports de l'OMS, de l'ONU. Puis ils prennent quelques extraits de brochures associatives comme le planning familial, etc. C'est une espèce de fourre-tout dans lequel est mêlé effectivement un peu de vrai et puis beaucoup de faux.
Pour l'instant, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas réagi. Les syndicats restent donc vigilants et maintiennent leurs comités départementaux en alerte.
Les antibiotiques bientôt inefficaces, l'inquiétude existe depuis quelque temps au sein des chercheurs et l'exemple découvert hier aux États-Unis renforce les craintes. On a identifié chez une femme une superbactérie résistant aux antimicrobiens, une première dans le pays. Et le même jour, une revue spécialisée a également révélé qu'une autre femme souffrait d'une infection urinaire provoquée par une souche mutante de la bactérie E. coli qui résiste à tous les antibiotiques. La principale cause du développement de la résistance microbienne, c'est un mauvais usage des antibiotiques. Prescrits trop souvent. Et l'on en vient pour terminer au magazine de la rédaction. Cette semaine, on s'intéresse au combat contre l'un des fléaux de ces dernières décennies, le sida. Aurélie Kiefer, bonjour.
Bonjour.
Dans quelques jours se tiendra la réunion internationale sur la lutte contre le VIH au siège de l'ONU. Objectif, éradiquer le virus d'ici 2030. Aurélie, dans le reportage que l'on pourra écouter en longueur cet après-midi à 17h, vous nous emmenez en Côte d'Ivoire, le pays d'Afrique de l'Ouest le plus touché. 3,7% des adultes vivent avec la maladie et parmi les populations les plus exposées, les prostituées. Certaines ont décidé d'agir avec des actions de prévention, de dépistage auprès des autres travailleuses du sexe, Aurélie.
Oui, alors j'ai beaucoup entendu parler de PS dans les maisons closes d'Abidjan. Là-bas, les initiales n'ont pas tout à fait le même sens qu'à Paris. Les PS, ce sont les professionnels du sexe. Elles sont environ 15 000 en Côte d'Ivoire. La moitié vivent dans la capitale économique. Dans les bars à hôtesse, vous rencontrez plutôt des Ivoiriennes, mais il y a aussi des anglophones, nigérianes et ghanéennes, qui vendent leur corps dans des bidonvilles. Leurs conditions de vie sont difficiles. La prostitution n'est pas interdite, mais faire ce métier, c'est une injure en Côte d'Ivoire, donc elles se cachent. Et même à l'hôpital, elles avouent rarement leur profession, d'où la difficulté de leur apporter des soins et des messages de prévention adaptés.
Donc pour lutter efficacement contre le sida, il faut venir les rencontrer sur leur lieu de travail. Ce sont d'autres prostituées qui s'en chargent, Aurélie.
Oui, j'ai rencontré des femmes employées par deux ONG. Elles pratiquent leur métier et plusieurs fois par mois, elles viennent faire ces actions de sensibilisation. Alors elles arrivent avec tout un équipement, des préservatifs et un pénis en bois pour des démonstrations concrètes du port de la capote, des albums photos bien trash pour montrer toutes les maladies qu'on peut attraper et des tests de dépistage rapide qui permettent de connaître son statut en 15 minutes.
Est-ce que ça marche, Aurélie ? Est-ce que les messages passent ?
Lentement, mais oui. Le fait que les éducatrices soient elles-mêmes des prostituées, c'est un élément très important parce qu'elles sont beaucoup mieux acceptées, elles partagent le même vécu, elles savent trouver les mots et leurs efforts portent leurs fruits. En 2002, 32% des prostituées vivaient avec le virus. Elles sont un peu plus de 11% aujourd'hui. Les ONG espèrent décrocher de nouveaux financements pour pouvoir généraliser ce type d'action.
Côte d'Ivoire, le combat des prostituées contre le sida. C'est un reportage d'Aurélie Kiefer. Merci beaucoup. Réalisé par Annie Brault, ce sera présenté sur France Culture de 17h à 18h par Tara Schlegel. On termine par le temps de ce vendredi. Les orages vont s'étendre à quasiment toute la France au fil de la journée. Les températures douces ce matin entre 11 et 15 degrés. Cet après-midi, on attend 20 degrés à Bayonne, 21 à Quimper, 23 à Paris, 25 à Colmar, 28 à Nîmes et 29 à Grenoble, Guillaume Erner.